pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Enivrez-vous. Enivrez-vous sans trêve.
Hey there, salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien en ce joli dimanche du mois de mai. Bienvenue dans votre émission dédiée à la curiosité. Aujourd'hui, nous allons nous demander si on ne serait pas tous un peu HPI. Non, je déconne. Mais en tout cas, j'ai lu pour vous un ouvrage d'une psychologue qui s'appelle Fanny Nussbaum et dont les travaux traitent principalement de l'intelligence humaine. Alors si vous écoutez le podcast, vous avez déjà entendu parler de neurodiversité avec moi. Aujourd'hui, on va parler de l'ouvrage d'une psychologue qui s'appelle Fanny Nussbaum. Et cet ouvrage s'intitule « Les philos cognitifs, ils n'aiment que penser et penser autrement ». Alors on va voir ensemble ce que ça veut dire tout ça. Alors, de retour sur Radio Primitive. On va parler des philocognitifs. Ce sont ces individus, enfants ou adultes, qui réfléchissent de façon différente et ne peuvent s'empêcher de penser et aiment penser. Et on va accueillir aujourd'hui la psychologue Fanny Nussbaum. Bonjour Fanny Nussbaum.
Bonjour Lorraine Poirel.
Alors aujourd'hui, on va parler avec vous de votre ouvrage paru en 2019. Donc c'est un ouvrage collectif qui s'intitule « Les philocognitifs, ils n'aiment que penser et penser autrement ». Vous êtes psychologue. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs et auditrices ?
Oui, en effet, je suis psychologue, je suis chercheur en neurosciences. Donc je suis rattachée, mon laboratoire est rattaché à l'Université Lyon 1. Et par ailleurs, eh bien, j'écris des livres. Donc j'écris pour le moment 4 livres sur le sujet de la philocognition. Et la philocognition, donc ça, on va en parler. Je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire de développer.
Non, pas du tout. On va en parler juste après. Donc, ces philocognitifs, moi, ça m'interroge en fait parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'étiquettes en psychologie qui vont et viennent. Enfin, beaucoup de personnes ont certaines caractéristiques. On va les appeler HPI, on va les appeler surdoués. Et là, finalement, la philocognition, c'est un terme que vous-même vous avez inventé ou qui existait déjà.
Non, c'est un terme que j'ai inventé, proposé, parce que, en fait, toutes ces acceptions, comme vous l'avez dit, HPI, surdoué, zèbre, précoce, aujourd'hui on va parler de neurodivergence ou neuroatypisme, bien, tous ces termes-là, ils parlent tous dans l'inconscient collectif de choses qui sont quand même, d'êtres au monde qui sont quand même assez différents. On reconnaît tous qu'il y a quelque chose de particulier dans le cerveau, on reconnaît tous qu'il y a avec ces termes une capacité supplémentaire à réfléchir, mais un HPI par exemple, si on parle d'un enfant et même d'un adulte, on va souvent parler de quelqu'un qui était ou qui est bon à l'école ou qui peut produire, on parle de QI très très souvent. Quand on parle d'un HPI, on va parler directement de QI avec. On va dire c'est quelqu'un qui a un haut QI et qui a une capacité à l'école. Alors on va dire qu'ils ne réussissent pas tous à l'école, etc. Mais quand même, globalement, dans l'inconscient collectif, on a cette idée que ça va être un premier de classe, quelqu'un qui peut pousser le raisonnement scolaire, académique assez loin. Donc il y a vraiment cette étiquette. Ensuite, un précoce, ça va être quelqu'un qui va être en avance, mais on le voit comme quelqu'un qui a des difficultés relationnelles très souvent, c'est cette étiquette-là. Ensuite, un surdoué, on va imaginer, on est souvent surdoué de quelque chose, mais quand on dit surdoué tout seul, on imagine un peu l'autiste, l'archétype de l'autiste, celui qui est très très bon dans certains domaines de la réflexion, mais qui par ailleurs peut avoir une certaine difficulté dans la relation et dans la gestion de ses émotions, par exemple. Donc, voilà, neurodivergence, c'est encore autre chose. Bon, c'est un peu un fourre-tout parce que on l'a piqué justement au domaine de l'autisme. Et maintenant, neurodivergence, ça veut dire aussi TDAH et ça veut dire aussi studio cognitif, ou quelqu'un qui a un cerveau, un raisonnement qui fonctionne pas mal. Donc, je me suis dit que ces termes-là n'étaient pas assez précis, ne disaient pas tous la même chose, même si on comprenait dans cet inconscient collectif ce qu'il y avait derrière. Et donc, j'ai voulu préciser le terme et avoir proposer un terme qui englobe tout. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut quelque chose de simple et qui dise simplement ce qu'on voit chez ces personnes. Donc, philo-cognitif. Philo, c'est pour aimer, investir massivement quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Eh bien, c'est la cognition, l'accès à la connaissance et à la pensée. Donc voilà, un philo cognitif, c'est quelqu'un qui aime, qui a une forte appétence pour le domaine de la pensée et de la connaissance.
Oui, alors c'est une appétence pour le fait de penser. J'avais lu aussi, c'est parce que... Ils peuvent être appelés comme ça lorsqu'ils ne peuvent pas forcément s'arrêter de penser. Mais finalement, on pense toujours, plus ou moins, dans tous les cas, la pensée ne peut pas forcément s'arrêter.
Exactement.
Et ce qui va être peut-être un peu souffrant pour ces personnes ou un avantage pour d'autres, ça va être justement cette appétence pour la pensée. Et comment, dans le livre, du coup, vous dégagez deux profils. Et avec différents symptômes.
C'est pas forcément des symptômes. Ce sont pas des maladies, mais bon, on peut dire. Autrefois, je le disais pas comme ça, mais maintenant, je pense qu'on peut dire des profils de personnalité,
oui.
Des philo-cognitifs.
Et donc, vous êtes fondatrice aussi du centre Psyrène. Je sais plus exactement où il est situé. Il me semble que c'est à Lyon. Voilà. Et donc, vous servez aussi de ces typologies pour étudier des profils de personnalité, justement. Est-ce que vous pourriez expliquer justement comment ça fonctionne dans ce centre de recherche?
C'est un centre clinique, donc d'accompagnement pour la recherche, je la fais par ailleurs.
Oui,
donc,
d'accord.
Mais peu importe, c'est pas grave. Donc voilà, on accompagne les enfants et les adultes dans la gestion de leur philocognition. Donc d'abord on évalue, puis ensuite on accompagne. Et donc en effet, on utilise ces deux profils, laminaire ou complexe. Et pour bien les accompagner mieux et de façon plus appropriée. Donc, alors je vais revenir en arrière pour répondre à votre première réflexion qui était tout le monde pense quelle est la différence entre un philo cognitif puisque tout le monde pense tout le temps. Et c'était très très juste ce que vous avez dit. Et je répondrai en vous disant que oui, c'est vrai, sauf que. On va avoir des moteurs différents dans la vie. On a tous des émotions, on vit tous des émotions et on a tous de l'énergie dans la vie pour se lever le matin et aller faire les choses. On a tous ces trois dimensions, on va dire la réflexion, la pensée, les émotions et l'énergie vitale, on pourrait dire. Eh bien, c'est vrai qu'on a tous tout. En revanche, chacun va avoir un moteur différent, ce qui va le faire se lever le matin ou ce qui va faire que à ses heures perdues, il va passer du temps plutôt à ci qu'à ça. Eh bien, un philo-cognitif, c'est quelqu'un qui va aimer passer son temps et ce qui va le motiver dans la vie, ce qui va être son moteur, ça va être d'acquérir de la pensée ou de la connaissance ou alors de vraiment se poser plein de questions sur son sujet. Alors, ça peut être des questions existentielles, mais ça peut être aussi des questions ultra scientifiques, réductionnistes. C'est pas une insulte dans ma bouche. Aimer se poser des questions et accéder à la connaissance. Et ensuite, pour donc votre deuxième réflexion sur les deux profils de personnalité, laminaire et complexe, et comment on les accompagne et qu'est-ce qu'on en fait, donc il y a deux profils dans la philo-cognition. Un profil donc, que j'ai appelé laminaire parce que ce sont ces personnes qui vont être plutôt adaptés dans la vie, qui vont être plutôt ce qu'on appelait autrefois les premiers de classe, qui vont répondre à l'environnement de façon adaptée, oui, c'est ça, répondre aux attentes de l'environnement, et puis qui vont avoir des acquisitions de capacités ou des capacités homogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être bons partout, ils choisissent en fonction de ce qui leur plaît davantage dans la vie, mais ils peuvent développer de bonnes capacités dans n'importe quel domaine dès lors qu'ils s'y intéressent. Et ils sont plutôt adaptés dans le sens où leur communication avec le monde est assez sereine et ils sont assez naturellement promus par le système, les gens les apprécient, ils sont assez piliers de la société et ils vont être promus assez naturellement sans forcément chercher la lumière, et d'ailleurs ils ne la cherchent pas particulièrement sauf s'ils veulent défendre une cause. Les complexes, eux, ce sont plutôt des poils à gratter et ils ont plutôt des acquisitions qui sont inégales, c'est-à-dire qu'ils peuvent être excellents dans un domaine de la pensée, du raisonnement ou de la connaissance et complètement nuls dans un autre, ou alors excellents dans le raisonnement mais par ailleurs sur le plan émotionnel complètement inadaptés. Donc voilà, ça va être ces personnes qui sont très en dents de scie. Et qui vont aussi avoir une personnalité qui est qu'on aime ou qu'on déteste. Ils vont pas être au monde quand on va les voir arriver dans une pièce. Ils vont pas du tout faire le même effet qu'un laminaire. Le laminaire, il va avoir plutôt des vertus apaisantes en arrivant dans une pièce. Le complexe, lui, il peut très vite électriser l'atmosphère. Donc, en effet, ces deux-là, on va les traiter différemment, alors qu'ils sont finalement cousins et que tous les deux sont des addicts à la pensée et ou à la connaissance.
D'accord, donc deux addicts à la pensée et à la connaissance se retrouvent dans deux profils. Donc, si je résume bien, le philo-laminaire et le philo-complexe. Moi du coup je vois un peu le laminaire comme très analytique, hein, c'est ça, hein, que vous décrivez, et plus serein par rapport, plus rationnel. J'ai envie de dire. Alors, que si on les compare,
les deux peuvent être très analytiques.
Ouais.
Mais c'est vrai que dans on l'imagine, enfin c'est-à-dire qu'il est plus dans la planification. Il prévoit. En ça, on pourrait dire qu'il est plus analytique, mais voilà, c'est davantage quelqu'un d'organisé. C'est pas quelqu'un qui va vous surprendre, qui va vous allez voir la veille quelqu'un de complètement différent du lendemain. Le complexe, oui. Le complexe,
d'accord.
Il peut
changer du tout au tout du jour au lendemain.
Oui, mais en même temps. Il a une capacité de changement qui est beaucoup plus importante. Donc voilà, ce qu'on peut voir comme une qualité d'un côté, ça va être un défaut de l'autre.
D'accord.
Et souvent, certains vont dire que le complexe est moins fiable que le laminaire, ce qui n'est pas le cas. Les deux peuvent être fiables ou pas fiables, mais c'est simplement la fiabilité de ce qu'on va voir d'eux. Le laminaire va se présenter au monde toujours à peu près de la même manière. C'est très rare qu'on le voit complètement différent. Alors que le complexe, pas du tout. Il peut être un jour, je sais pas, ultra sérieux, ultra intériorisé, et le lendemain complètement l'inverse.
D'accord. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet, un peu l'effet Barnum qu'on peut retrouver dans d'autres étiquettes TDAH, HPI, etc., où finalement, quand on décrit les personnalités, c'est facile finalement de se reconnaître dans ces personnes-là ?
Oui, je pense que vous avez complètement raison. Il y a un truc, quand j'étais à la fac de psycho, il y a quelques temps déjà, on se rendait compte, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, qu'à chaque fois qu'on apprenait, qu'on découvrait une nouvelle, entre guillemets, pathologie, on se retrouvait tous dedans. On apprend la schizophrénie. Alors là, je dois être schizophrène parce que ceci, cela. Donc ça, c'est vraiment l'effet Barnum. Quand on, On peut se reconnaître tous, même dans la schizophrénie, dans l'autisme, on en a parlé, dans même le trouble du comportement alimentaire, etc. etc. On peut retrouver quelque chose de soi dans la bipolarité. On peut retrouver toujours quelque chose de soi. Après, ce qui va faire sens, c'est la comparaison. Là, par exemple, si on arrive à se dire je suis philocognitif parce que j'ai une appétence importante pour la pensée et la connaissance. Quand je rentre chez moi, j'ai envie d'apprendre quelque chose, j'ai envie de continuer à réfléchir à mon sujet, j'ai pas envie de tout couper, de couper le raisonnement et de me dire je me repose et je fais plus rien. Ça veut pas dire que je ne sache pas me reposer, mais ça veut dire que quand même, mon orientation, ce sera toujours ça. Donc dès lors que je sais que je suis philocognitif, bien sûr que je vais me reconnaître dans le laminaire et dans le complexe, surtout qu'on n'est jamais 100% laminaire ou 100% complexe. Alors c'est rarissime, on va avoir par exemple 60% de laminarité et 40% de complexité, et on va se dire laminaire quand même. Donc on va se retrouver dans les deux, et puis ce qui va faire le tri, c'est la comparaison. J'ai plus de laminaire que de complexe en moi, on va comparer à d'autres spécificités de l'autre camp.
D'accord. Et est-ce qu'il existe des tests justement pour savoir si
Pour savoir si on est laminaire ou complexe.
Oui.
Eh bien, je pense pas la livrer un grand secret, mais je suis en train d'en créer un.
D'accord.
C'est un grand questionnaire. Je sais pas, ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus avec un ami mathématicien pour qu'on score et qu'on fasse les choses correctement sur le plan mathématique. Et puis, une personne qui nous accompagne aussi pour implémenter tout ça. Et donc ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille dessus, et ça devrait dans les prochains mois sortir sous forme d'un long questionnaire, très très long questionnaire.
Et qui sera accessible via vos travaux, j'imagine.
Qui sera accessible en ligne. On n'a pas encore la formule parfaite, mais je pense qu'il faudra de toute façon former les psychologues d'abord à cet accompagnement, et puis ensuite ce sera accessible en ligne.
D'accord, très bien. On va faire une petite pause musicale. Je vous ai proposé de me donner trois musiques de votre choix. Donc vous avez choisi Il jouait du piano debout. Est-ce que ça a un sens particulier pour vous, justement, par rapport au sujet qu'on aborde aujourd'hui?
Oui, je pense que cette chanson, Il jouait du piano debout, elle nous parle vraiment d'assumer sa différence et d'être ok avec sa différence, quoi. Il jouait pas du piano comme tout le monde dit, et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et je crois que ça nous parle de ça, et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on enseigne à nos enfants et à ceux qui nous suivent.
Très bien, on s'écoute ça tout de suite et on revient juste après.
C'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien, il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats regardent à vous, simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Il était patriote, il serait mort du genre d'honneur, telle note. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leurs rêves ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire. Ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, il chantait sur des rythmes fous, et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essayer de vivre, essayer d'être heureux, ça vaut le coup. Les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui.
De retour sur Radio Primitive avec Fanny Nussbaum, psychologue. On parle des philocognitifs, ils n'aiment que penser et penser autrement. Alors, pour revenir à nos philocognitifs, donc il y a deux profils, on les rappelle, les philocomplexes et les philolaminaires. Est-ce que, donc, parmi les personnes que vous rencontrez en tant que psychologue, c'est une grande souffrance de trop penser comme ça, enfin de penser... aimer penser comme ça ou c'est un avantage, enfin, comment le vivent les personnes concernées?
Non, c'est pas tant. Il y a eu, enfin, pendant longtemps, justement, on a communiqué sur la philocognition et autres en parlant d'abord de cette souffrance. Je pense que c'est pas une souffrance particulière, c'est-à-dire qu'il y a une souffrance, évidemment, on se sent toujours seul quand on a une particularité, mais... On se sent aussi seul quand on est quelqu'un qui est profondément relationnel, émotionnel et que les autres ne renvoient pas la balle comme on le souhaiterait. Mm-hmm. Voyez, être un philocognitif, ça a son lot de souffrances. Et le lot de souffrances, c'est souvent ce sentiment de solitude, de ne pas pouvoir trouver quelqu'un avec qui phosphorer pendant des heures ou quelqu'un qui ait la même appétence que soi pour la connaissance, pour en apprendre plus. Et donc parfois, se sentir incompris. Donc ça, c'est la souffrance. Et puis, il y a évidemment de grandes joies d'un philocognitif en général quand il a tout d'un coup, quand il fait un... Je ne sais pas pourquoi c'est le terme en anglais qui me vient, j'arrive pas à trouver le terme en français, c'est complètement stupide. Un breakthrough, comment on appelle ça?
Une
percée, quoi. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi ça me...
Je n'ai pas non plus le terme en français.
Voilà, bon, il nous reviendra après l'émission. quand il fait une percée, on va dire comme ça, avec sa pensée, quand tout d'un coup il arrive à dénouer une pensée qui le torturait depuis des semaines ou des mois, ben c'est une extase incroyable. C'est vraiment, mais tout d'un coup, vraiment, c'est
un peu eureka, c'est une illumination presque.
et c'est merveilleux, et ça peut, je pense que ça peut tenir un filo cognitif pendant plusieurs, je sais pas si on peut dire plusieurs semaines, mais en tout cas plusieurs jours, quoi, avec cette joie d'avoir j'ai découvert un mot il y a quelques jours. Et un mot, et avec tout le concept qui va avec et qui me convient parfaitement, et bien vraiment je suis aux anges depuis quelques jours juste pour ça.
C'est un plaisir, quoi, c'est plaisant.
Oui, c'est ça, vous avez raison, euphorisant.
Ouais, euphorisant. C'est vrai que chez le complexe, du coup, vous le dites dans le livre, il peut y avoir aussi une surcharge cognitive qui va être mal maîtrisée et possibilité d'être un peu dépassée par ces idées.
Oui, et puis des ruminations.
C'est-à-dire des ruminations. Que
vraiment, le philo-cognitif, ça, on peut dire que son talon d'Achille, c'est ça, c'est les ruminations. Alors tout le monde vit des ruminations, il n'y a pas que les philo-cognitifs, mais les philo-cognitifs, et en particulier les philo-complexes, on vit tendance à être en boucle avec leurs pensées parce que c'est tellement naturel déjà pour eux d'être dans la pensée, mais encore plus quand c'est une pensée noire, quand ils n'arrivent pas à détordre un sujet ou quand ils ont vécu quelque chose d'émotionnellement engageant et surtout négatif, ben ils vont tourner en boucle avec ça et ça va vraiment les polluer. Donc ce qui est leur super atout peut devenir leur super faiblesse parce que ça les empêche trop penser à ce moment-là et tourner en boucle les empêche de penser correctement.
D'accord. Et donc pour le profil philo-laminaire, moi j'ai noté peu désireux d'efforts. Et c'est plutôt le côté « il en faut peu pour être heureux » de son côté.
Oui, c'est une grosse feignasse. Pardon pour les lamineurs qui nous écoutent, c'est très tendre ce que je dis. Et souvent, justement, les lamineurs, ils me disent je suis super fort parce que je suis fainéant. J'utilise ma fainéantise pour me forcer à être efficace et à apprendre plus vite, à être super organisée et à faire en sorte de m'organiser du temps du temps cool.
Oui.
Voilà, c'est en ça que ce sont des fainéants et qu'on peut les admirer.
D'accord. Et en fait, vous proposez aussi dans le livre des façons, j'ai le mot en anglais, des coping mechanisms, donc des manières de faire avec cette pensée un peu en arborescence, cette appétence pour la pensée, pour justement un peu s'arrêter de penser et être plus dans l'intuition ou quelque chose de plus fluide, moins dans la réflexion.
Exactement. Donc il y a un moment où penser devient un handicap. Et surtout, ça va paraître évident, mais surtout quand on doit être dans l'action, en fait. Le philo-cognitif, puisque c'est sa facilité, il se sent chez lui dans sa pensée, et avec sa pensée, ça devient un peu son bouclier pour tout. Et souvent, il se met en retrait du monde avec sa pensée. Et je raconte souvent cette anecdote avec mon fils. J'ai un fils qui est joueur de tennis professionnel, donc sportif de haut niveau. Et un jour, il y a plusieurs années, on était à la salle de sport tous les deux. Et il me dit, c'est fou parce que quand je regarde les gens à la salle de sport, les gens sur leur machine, me dit-il, eh bien, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas à l'aise dans leur corps. Je les vois bouger et je vois qu'ils ne sont pas super à l'aise dans leur corps. Sous-entendu, toi comprise, maman. et il me dit, alors que moi, dans mon corps, je suis comme dans un sofa. J'ai adoré cette expression et j'ai adoré cette manière de voir les choses. Et je lui ai répondu, l'humilité, ce n'est pas notre forme dans la famille. J'ai répondu, moi, c'est exactement pareil dans ma tête.
Ah oui, ouais.
Vous voyez ? Et c'est exactement ça, la philo-cognition. C'est quand on est dans notre tête, nous les philo-cognitifs, eh bien, c'est là qu'on est le plus à l'aise, c'est là qu'on est, c'est comme si on avait des charentaises et, et une couverture, quoi. On est vraiment dans sa zone de confort quand on est philo-cognitif et quand on est dans sa tête. Et donc, ben, on va se réfugier dans sa tête, dans toutes les situations qui peuvent être un peu difficiles, délicates. Donc parfois, c'est une force, et parfois, ben, quand il s'agit d'agir, et qu'on se réfugie dans sa tête, ben là, c'est pas bon. On va pas sur son canapé quand il s'agit de faire la guerre, vous voyez. c'est pas possible. Donc, eh bien, au moment où il faut agir et où on se dit « Ah ben non, mais j'ai pas toutes les informations qu'il me faut, il faut que je continue à réfléchir, à peaufiner mon sujet avant d'agir », ben là, ça devient un handicap. Donc, je me souviens plus quelle était la question. Je me souviens de la question, pardon. Donc oui, il y a des trucs pour pouvoir squeezer la pensée à ce moment-là, puisque la pensée n'est pas bonne à ce moment-là, c'est d'écouter davantage son intuition. Donc écouter son intuition, ça veut dire je sens et j'agis directement. C'est pas je sens, je réfléchis à ce que j'ai senti et j'agis. C'est je sens quelque chose me dit qu'il faut que je parte en courant, ou quelque chose me dit qu'il faut que je m'énerve contre cette personne parce que elle est en train de me chercher. Je sais pas, peu importe. Je sens, j'agis directement. Je me dis pas ah non mais attends c'est pour telle et telle raison et je ne rentre pas, je n'entre pas dans l'analyse.
Oui, d'accord. Donc c'est plus un ressenti corporel se fier à des ressentis physiques finalement,
plus
émotionnels.
Les deux en fait, voilà, les deux, même les trois, c'est aussi le cerveau en fait, c'est ce qu'on appelle la modularité cérébrale, c'est-à-dire ces petits modules cérébraux qui permettent qui sont très spécifiques et qui travaillent pendant que nous on est là conscient et qu'on croit que c'est nous en tant que cerveau conscient qui faisons tout le travail. En fait, on a toute une usine derrière qui traite toutes les informations dans l'ombre. Il faut savoir que 90 à 95% de notre activité cérébrale est une activité inconsciente. Et donc, on a plein de petits modules spécialisés qui nous disent « lève le pied pour monter la marche, tourne à gauche, tourne à droite, fuis cette personne, etc. etc. » Et ça, ce sont des petits modules qui ont fait des statistiques sur nos expériences de vie et qui savent quelles sont nos stats, en disant bah, la plupart du temps, quand tu as rencontré ce type de personne, ça ne t'a pas réussi. Donc là, je te le dis, sans que tu t'en rendes compte, tu es face à ce type de personne, donc fuis, fuis tout de suite. Bien là, quand vous sentez ça, donc c'est à la fois la tête, le cœur et le corps qui disent ça, fuis cette personne, eh bien, il ne faut pas se poser de questions, il faut fuir, parce que ça vous arrivera de vous tromper. Quand vous aurez fui, peut-être que la personne en fait était très bien et que vous vous serez trompé. Mais en tout cas, dans la plupart des cas, vous aurez raison et vous perdrez du temps à retourner dans l'analyse et à vous dire non, mais quand même, je laisse une seconde chance parce que peut-être que j'ai senti ça, mais que ce n'était pas juste.
Et ce n'est pas un risque de se fier finalement aux premières impressions qu'on a
En fait, statistiquement, je pense que au contraire, c'est pas un risque de se fier aux premières intuitions. On peut se tromper, mais statistiquement, on a quand même plus de chances de ne pas se tromper que de se tromper, parce que cet inconscient cognitif, donc ce cerveau modulaire, il est beaucoup plus efficace que la conscience. Donc, normalement, si on a un cerveau bien fichu, et c'est le cas de la plupart d'entre nous, puisque nous sommes des survivants, nous sommes là et nous continuons à vivre au quotidien, ça veut dire que nos stats sont bonnes, que nos cerveaux nous donnent des bonnes stats. Donc, il faut les écouter, ces stats. Mais, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on se plante jamais avec l'intuition. Parfois, on a de mauvaises intuitions, mais dans la plupart des cas, si je vous dis vous avez 8 chances sur 10 de réussir, ça ne veut pas dire que vous réussirez à 100%. Donc, ça veut dire que vous préférez le 8 chances sur 10 que quand vous êtes dans la réflexion, bah là, vous tombez à 4 chances sur 10. Donc, bah, vous allez préférer le 8 chances sur 10.
D'accord, ok. C'est plus clair dans ma tête. Merci. Du coup, on va passer à une petite pause musicale tout de suite. Vous avez choisi Imagine Dragons, Believer. Est-ce que vous pourriez nous dire à nos auditeurs et auditrices pourquoi ce choix ?
Alors, c'est pas lié à la philocognition, mais comme d'ailleurs la première chanson que j'avais choisie, c'est lié à ma philosophie, qui est celle que j'appelle l'embellisme, et qui est de dire que De tout, on peut ressortir quelque chose de beau et aussi de la souffrance, et que la souffrance peut être une immense chance. Et donc j'adore cette chanson parce que ça dit « Pain, you made me a believer ». C'est la souffrance qui a fait de moi un croyant. Et j'adore cette philosophie-là.
D'accord, et en fait, j'avais lu aussi justement sur l'embellisme, ce que vous prenez finalement de faire de sa vie une œuvre d'art en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est vraiment l'explication.
C'est pour ça que je commence mon quatrième livre sur ce qui s'appelle L'Art de l'Excellence, où je dis, je crois que je commence par là, je commence par une lettre à mes enfants et une introduction en parlant à mes enfants et en leur disant, voilà, j'ai toujours voulu faire de ma vie une œuvre d'art, et ce que je veux, c'est qu'on fasse pareil que maman.
Génial. Eh bien, faisons de notre vie une œuvre d'art. La chanson date de février 2017 et on va s'écouter ça tout de suite.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the.
Stop. We can't.
De retour sur Radio Primitive avec Fanny Nussbaum, psychologue et auteure de ce livre, cet ouvrage dont il est question aujourd'hui, Les philos cognitifs. Il n'aime que penser et penser autrement. Alors, on en a parlé succinctement juste avant, mais vous proposez aussi dans le livre des des activités, des choses à faire finalement. Est-ce que c'est un peu de la neuroéducation, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais oui. Si je cite des exemples, par exemple des mots croisés, faire des puzzles, faire travailler sa créativité à travers l'art, constituer un journal intime par exemple, ça va être des activités qui vont justement poser la pensée chez des profils comme ceux dont il est question aujourd'hui.
Oui, ou des activités qui vont, je ne sais pas si on peut dire comme ça, pallier l'handicap des laminaires ou des complexes. Parce qu'en fait, donc une étude en neurosciences qu'on a menée avec mes acolytes qui sont co-auteurs de ce livre, Dominique Sapé-Marigny et Olivier Revol, nous a montré, donc on a fait passer dans l'IRM, je crois qu'ils étaient une soixantaine, ou 80 je crois, enfants, c'était il y a quelques années déjà, qui étaient des laminaires et des complexes. Et on s'est aperçu, on a observé vraiment une particularité cérébrale. Donc c'était tous des phylocognitifs, et puis on avait un groupe de laminaires, un groupe de complexes. Et ce qui était rigolo, on rigole d'un rien en neurosciences, c'était que donc tous les phylocognitifs par rapport au groupe contrôle qui n'était pas phylocognitif, tous les phylocognitifs présentaient une modularité cérébrale et une communication, une connectivité, voilà, je cherchais le terme, une connectivité cérébrale plus importante que les non phylocognitifs. Mais cette connectivité cérébrale était plus importante dans l'hémisphère gauche chez les complexes et dans l'hémisphère droit chez les laminaires.
D'accord.
Voilà, et c'est une information, mais après c'est sujet à interprétation. Nous, la façon dont on l'a interprétée, c'est que, en fait, l'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère roi du langage. Et donc, c'est vraiment la boucle du langage, de l'avant à l'arrière de l'hémisphère gauche, on parle de la boucle du langage. Et ce langage, c'est aussi le langage intérieur. Donc, la boucle du langage, quand on se parle à soi-même, elle est aussi active. Et en fait, on l'a interprété comme le complexe, il a une forte intériorité, un fort langage intérieur. Il est plus connecté de ce côté-là parce qu'il a un fort langage intérieur. Et en général, il a des idées qui sont vraiment particulières, qui sont pas comme les autres. Mm-hmm. Et il va convoquer le monde à l'intérieur de lui pour venir valider ses idées farfelues. Donc, le mouvement, c'est de l'extérieur à l'intérieur. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'interpréteur, plus que l'interprète, l'interpréteur. Il va interpréter toutes les données de l'extérieur pour venir valider sa pensée loufoque, on va dire. En revanche, le laminaire, lui, eh bien, il a cette connectivité supérieure à droite, dans l'hémisphère droite, et on l'a interprété plutôt comme un explorateur, c'est-à-dire que l'hémisphère droit, c'est celui qui va être beaucoup plus ouvert d'esprit et qui va se poser des questions sans avoir d'a priori, comme le profil complexe. Le profil complexe, il a un a priori et il veut valider son a priori. Donc, c'est vraiment de l'extérieur vers l'intérieur. Le profil laminaire, lui, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'il va voir le monde et il va avoir plein de questions. Et quand il va pas poser la réponse tout de suite, et dans le monde, parfois il va valider ses hypothèses, mais parfois il va pas les valider, ça va ouvrir d'autres questions. Et ça, c'est vraiment typique de ce que fait l'hémisphère droit, qui gère aussi beaucoup mieux les émotions, l'hémisphère droit. En effet, dans le livre, on a proposé des exercices qui permettent aux laminaires de muscler leur hémisphère gauche, parce que c'est un peu leur fragilité. Les laminaires, ils ont tendance à manquer d'intériorité. Ils vont pas aimer se poser des grandes questions existentielles. Ils vont faire les choses parce qu'il faut faire les choses, c'est tout. Et ils vont faire les choses parce que quand on est quelqu'un de bien, on fait les choses comme ça. Donc, ils vont pas aimer non plus les grandes démonstrations, que ce soit pour eux-mêmes ou pour les autres. Les grandes démonstrations émotionnelles, ça va les mettre mal à l'aise. Ils aiment plutôt les démarches pragmatiques. Donc, il faut les rééduquer à ça, à avoir une intériorité. Et c'est pour ça que vraiment la pratique, par exemple, du journal intime dont vous avez parlé, c'est vraiment un truc typique pour les laminaires, de développer un journal intime. Et quand je propose à des patients, enfants ou adultes, d'écrire un journal intime, je précise bien, parce que souvent les laminaires sont des tricheurs pour ça, j'arrête pas de les attaquer, les laminaires, je sais pas pourquoi, il y a un truc dans mon inconscient, mais je les adore, vraiment je les adore, en plus c'est très très attendri quand je dis ça. Naturellement, quand ils vont écrire un journal intime, s'ils en ont l'obligation, ils vont écrire, ce matin je me suis levée à telle heure, je suis allée faire mon marché, j'ai déjeuné, et puis le soir je me suis couchée. Non, c'est pas ça en fait. Là, dans le journal intime, il faut vraiment parler de son intimité, de ce qu'on ressent, etc. Mmh. Donc il faut vraiment pousser le truc. Pour vous, ça va être, un truc de folie de dire j'ai ressenti ça. Mais il faut que ça devienne un exercice, un entraînement du quotidien. Voilà.
D'accord.
Et pour les complexes, c'est plutôt l'inverse. C'est apprendre à faire des exercices de, ils ont une pensée divergente naturellement, mais ça va être justement des exercices plutôt pour arriver à converger, pour arriver à être dans quelque chose de plus consensuel, de plus adapté. Donc voilà, on a proposé, d'accord, ces exercices différents.
Et pour les enfants aussi, vous citez, vous dites par exemple de faire plusieurs activités variées, de changer souvent d'activité, que ça aussi ça les aide à avoir peut-être à enrichir leur façon de voir les choses peut-être.
Oui, c'est ça, ça permet d'augmenter, ça n'a rien à voir avec la philo-complexité, d'augmenter, oui, la complexité cognitive, c'est-à-dire que il faut jouer avec son instrument quand on est bon avec sa pensée, sa connaissance, et quand on est, je ne sais pas si on peut dire doué du préfrontal, eh bien, il faut l'utiliser dans différents registres. Donc, il faut vraiment jouer avec ça et jouer à la fois, à nouveau, avec tout ce qui fait la créativité, c'est la pensée divergente, puis la pensée convergente. Ce n'est pas seulement la pensée divergente. Et donc, il faut arriver à jouer avec les deux. Et pour ça, il faut s'entraîner dans les deux domaines.
D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, on va refaire une petite pause musicale avec votre proposition. Donc, je l'ai perdue, évidemment. C'est Big Flo et Oli. Voilà, plus tard de Big Flo et Oli, tu comprendras plus tard. On se retrouve juste après.
Oui, alors ce titre, c'est typiquement la philo-cognition. Hein, tu comprendras plus tard. C'est vraiment toutes ces questions que se pose le philo-cognitif dans l'enfance et on dit « tu comprendras plus tard par facilité », on dit ça à l'enfant. Mmh. Et l'enfant philo-cognitif, à ce moment-là, il n'est pas nourri intellectuellement, il n'a pas de réponse. Et c'est terrible, ça, c'est un grand moment de solitude pour lui. Et puis plus tard, il ne comprend pas forcément. Et ce sont des questions qui lui restent en tête jusqu'à la fin de sa vie.
Big Flo et Oli, tu connais, non? Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux, que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai, et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Changé, pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On me disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas.
Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, les photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur.
Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose. Je n'ai pas
comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas.
Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière.
Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels.
Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait,
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard.
De retour sur Radio Primitive avec Fanny Nussbaum, psychologue, on parle des philo-cognitifs. Alors moi j'avais une question par rapport à ce dont on parlait, le cerveau gauche, le cerveau droit. Vous dites dans le livre que finalement les neurosciences elles évoluent et elles sont en constante évolution et on découvre des choses tous les jours. Après il y a peut-être aussi des façons de voir différentes en fonction de certains scientifiques. Je sais qu'il y a certains neuroscientifiques qui ne sont pas forcément pour le fait de catégoriser le cerveau en deux parties, cerveau droit, cerveau gauche. Comment ça se fait en fait dans la science comme ça? Comment il y a un consensus qui peut être établi
Alors déjà, enfin, là-dessus, il y a un consensus, c'est-à-dire que ce qu'on va appeler un neuromythe au sujet du cerveau gauche, cerveau droit, c'est particulièrement ça a été repris par plein de coachs, formateurs. Est-ce que tu es plus cerveau gauche ou cerveau droit? Ça veut rien dire. On n'est pas plus cerveau gauche ou cerveau droit. Alors là, on a vu que les complexes avaient une connectivité cérébrale plus importante du côté gauche et les laminaires du côté droit. Mais c'est pas. Il n'y a pas une personnalité plus cerveau gauche ou plus cerveau droit. C'est simplement qu'il y a des domaines cérébraux qui vont être plus actifs. Mais comme on peut dire que quelqu'un a un cortex préfrontal dorsolatéral droit plus important, ça veut dire qu'il va être plus dans l'inhibition. Mais on ne peut pas. Ce que je viens de dire, ça ne sert pas du tout aux gens qui nous écoutent.
Non, mais c'est intéressant. C'est vraiment une question de connectivité en fait, dans les aires cérébrales qui va être plus forte d'un côté ou de l'autre. Et ce n'est pas forcément en fait, un peu des fantasmes qu'on a alimentés, que la pop culture a alimenté le cerveau gauche plutôt axé. C'est l'artistique et puis le cerveau droit plutôt rationnel.
C'est l'inverse, c'est pas grave. Mais c'est-à-dire que ce que les gens n'aiment pas, ce sont les caricatures. Ils ont raison, mais quand on fait de la vulgarisation, on est obligé de tomber dans les caricatures. Donc là, ce qu'on dit simplement, c'est que une connectivité plus importante à gauche, ça souligne des comportements un peu plus axés monde intérieur qu'une connectivité comme ça à droite. Mais on peut pas en tirer ensuite, vraiment tirer le modèle et dire qu'il y a vraiment spécifiquement une personnalité cerveau gauche et une personnalité cerveau droit. Ça, c'est après, ce sont les extrapolations qu'on peut faire, quoi. Donc, les neurosciences, c'est pas, comment dire, je sais pas si des neuroscientifiques ne seraient pas contents peut-être que je dise ça, mais c'est pas une science dure, c'est-à-dire que c'est une science beaucoup d'interprétation. C'est pas parce qu'il y a science dedans que forcément on peut dire qu'on est aussi dur dans notre manière d'interpréter les choses que le sont des mathématiciens ou des physiciens. Mm-hmm. Je crois qu'il ne faut pas se prendre pour des autres non plus.
Mm. Oui, j'ai demandé ça parce qu'en fait on va recevoir là très bientôt, la semaine prochaine pour le podcast de juin, Albert Moukébert qui va nous parler de son ouvrage Neuromania. Et c'est vrai que c'est intéressant en fait d'avoir aussi différents points de vue, hein, finalement de voir... Après, je ne sais pas. Vous, qu'est-ce que, par exemple, vous pensez de ces travaux ? Enfin, je ne sais pas si vous...
Je ne les connais pas très bien. Oui. Je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je ne connais pas très bien ces travaux. Ce que je vois, c'est qu'il fait de la super vulgarisation, qu'il est sérieux. Donc, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire sur vraiment le fond de ces travaux. Je ne sais même pas si... Bon, il a dû écrire des livres, mais vous voyez, je sais même pas.
Oui, non, je demandais ça comme ça.
Mais en fait, voilà, ce que je vois passer, c'est ça m'a l'air tout à fait sérieux. Et j'avais beaucoup aimé une fois, j'avais vu passer une vidéo de lui qui avait été virale d'ailleurs, où il disait que les vacances, ça n'existe pas, que le cerveau n'est jamais en vacances, et que donc, voilà, pourquoi se dire qu'il faut se reposer, arrêter de penser pendant quelques temps. J'avais trouvé ça très, très juste. En effet, le cerveau ne se repose pas, et il n'y a pas besoin s'il n'est pas trop stimulé ou mal stimulé.
Très bien. Et il ne se repose pas, c'est vrai. c'est malheureux, mais non, ça peut être aussi une richesse. On va parler aussi, pour terminer cet entretien, de vos travaux en général, qui traitent principalement de l'intelligence humaine et de l'art de l'excellence aussi. Mm-hmm. Est-ce que vous faites des liens justement avec cette volonté d'exceller? Par exemple, avec vos patients, les personnes que vous accompagnez, vous les aidez clairement à atteindre leur excellence, une forme d'excellence?
Oui, c'est vraiment la particularité de l'approche embelliste, c'est de vouloir... Un humaniste, par exemple, un psychologue humaniste, il va rechercher chez son patient... une sorte d'apaisement, de sérénité, d'arriver à être plus indulgent envers lui-même. Ça va être une sorte d'approche plus douce, en tout cas axée sur une forme de douceur avec soi-même en tant qu'être humain. L'approche embelliste, telle que je l'ai créée, c'est vraiment axée sur le fait de... d'être plus grand que soi-même, de se porter haut, d'aller vers... c'est vraiment une démarche d'excellence et de performance, mais pas la performance dans le sens bling-bling des années 80 où on veut à tout prix être le meilleur, le plus beau, le plus fort, mais simplement à arriver à faire du beau avec soi-même, à créer du grand et du beau avec soi-même. Donc ça, c'est vraiment mon approche au quotidien. Donc évidemment, quand on est philo-cognitif, quand j'ai un patient philo-cognitif, ce qui est le cas de la plupart de mes patients, je les accompagne à créer de l'excellence et à faire de leur bel esprit quelque chose de plus grand.
Très bien. Et est-ce que pour terminer cet entretien, vous auriez un petit mot pour nos auditeurs et auditrices par rapport à peut-être vos travaux, par rapport au sujet du jour, à ajouter ou sinon, on va se quitter là.
Je crois que j'ai à peu près tout dit.
Faites de votre avis, votre vie une œuvre d'art. Voilà. On le redit, faites de votre vie une œuvre d'art. Merci beaucoup, Fanny Nussbaum. On se quitte en musique avec Soon Will Be Found de Sia, de son album Some People Have Real Problems, d'une chanson qu'on s'écoute tout de suite. Merci, Fanny. À bientôt.
Merci, Lorraine.
Right down there, shouting out, you the time for darling tales on me. So come along, it won't be long till we will turn happy. Shut your eyes, there are no lies in this world we call sleep. Let's deserve this day of heart. Tonight, don't turn around.